Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour. Quand il vivait en Tchécoslovaquie, il s'appelait encore Karel Zamečník, un nom de famille un peu trop difficile à porter et à prononcer en France, où il a émigré à la fin des années 60. Devenu Karel Prokop, Karel Zamečník est quasi méconnu dans son pays d'origine, tandis qu'en France, où il a fait carrière comme documentariste, il possède à son actif de multiples réalisations pour Arte ou d'autres chaînes de télévision. Des films sur l'histoire de la Tchécoslovaquie, sur la séparation de son pays d'origine en 1993, des portraits de Václav Havel, Franz Kafka ou Joseph Conrad, des reportages au Yémen, au Soudan, en Asie centrale et dans les profondeurs des mers. Karel Prokop a aussi été le premier à filmer une expédition de l'explorateur Théodore Monod, dont il a fait la renommée tardive. Dans cette première partie de l'entretien réalisé avec Karel Prokop, nous évoquerons ses premiers pas à la réalisation, son lien à la France, les problèmes qui l'ont poussé à émigrer en France. Karel Prokop, vous êtes documentariste, voilà, réalisateur de films documentaires. Vous êtes d'origine tchèque, mais vous vivez en France depuis des années. On va commencer peut-être par votre premier opus. Déjà à l'époque, c'était un sujet qui touchait pour le coup un sujet un peu franco-tchèque, puisque vous avez réalisé un documentaire sur Josef Šíma, un peintre tchèque qui faisait partie d'un groupe parasurréaliste, Le Grand Jeu, avec Roger Vaillant. Et c'était votre premier documentaire, et je crois savoir le premier documentaire en couleur, un des premiers documentaires en couleur tchécoslovaque.
Non seulement tchécoslovaque, mais c'était aussi un des premiers films en couleur pour la télévision française, qui à l'époque commençait à diffuser en couleur. C'était un concours de circonstances. La télévision française était effectivement un peu à la recherche de sujets où la couleur jouait un grand rôle, et un film sur les vitraux. Parce que, en fait, j'ai réussi à proposer comme sujet le travail de vitraux de Josef Šíma, qui est loin d'être le plus important, mais qui intéressait donc les programmateurs de la télévision française, de l'ORTF de l'époque. Donc, ça m'a permis de faire ce film. C'est en fait un peu le début de mon histoire personnelle, qui explique aussi un peu l'existence du film. Donc, c'était un film que j'ai pu réalisé grâce à un voyage privé que j'ai pu faire en France en 1965, quand je terminais la FAMO, l'école de cinéma de Prague, tout simplement parce que j'avais une tante qui vivait en France, qui était française, et qui, soit dit en passant, avait été la directrice du centre culturel français à Prague, qui s'appelait à l'époque Institut Ernest Denis.
Alors, c'est donc une histoire visiblement avec la France qui date d'assez longtemps, grâce à cette tante. Plus tard, vous avez émigré. Alors, par contre, cette émigration s'est fait suite à un emprisonnement, notamment. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quels étaient, en gros, les problèmes que vous avez rencontrés avec le régime? En quoi est-ce que vous étiez un facteur dérangeant pour ce régime?
Quand je vivais à Paris, et j'y suis resté un an pour faire ce film, je n'avais pas du tout l'intention d'y rester, de devenir un émigré. Mais par contre, je ne me gênais pas pour aller voir des gens que j'avais envie de voir et de nouer des contacts avec des personnes aussi peu recommandables dans les yeux du régime de l'époque, comme Pavel Tigrid, pour qui j'ai travaillé, j'ai collaboré à la revue Témoignage, Svědectví, qui était vraiment la bête noire du régime communiste. Il se trouve que la police secrète tchèque avait quand même des moyens à l'époque qui permettaient de suivre un peu ce que les gens faisaient. Et j'étais en correspondance avec un écrivain qui était un grand dissident et contestataire qui s'appelait Jan Beneš, qui vivait donc à Prague. et qui m'envoyait plein de nouvelles, plein de lettres qui étaient enfin destinées à une rubrique de Svietlana qui s'appelait « Lettres à Svietlana » et qui racontait ce qui se passait à Prague. Et comme il était très bien renseigné, il y avait même des informateurs au comité central du Parti communiste, et donc Tigrid avait des informations relativement bien informées de ce qui se passait dans les cercles du pouvoir. Et les communistes à Prague étaient extrêmement furieux de cet état de choses. Ils ont mis les gros moyens pour mettre fin à cette conspiration. Et quand je suis donc revenu à Prague, comme c'était prévu, je me suis retrouvé très très vite en prison à Rousinière, accusé de haute trahison, aide pour l'espionnage, subversion de la République,
et tout le tralala.
Les policiers qui m'interrogeaient m'ont dit même, monsieur Zametchnik, ne vous inquiétez pas, on a aboli la peine de mort, mais avec tout ce que vous avez fait et un très bon avocat, vous n'allez pas vous en tirer à moins de 15 ans.
Combien de temps vous êtes resté emprisonné?
Je suis resté six mois à être interrogé. J'ai eu plusieurs chances dans cette affaire. L'une des plus importantes, c'était que j'ai connu par des liens de famille un avocat qui s'appelait Otakar Montel,
qui est aujourd'hui ombudsman, c'est-à-dire médiateur de la République.
Médiateur de la République, qui a été également le premier ministre de la justice de Václav Havel. Et je lui dois de m'être tiré, si j'ose dire, de cette affaire avec beaucoup de chance et sans trop de dégâts, parce qu'il a fait ce travail avec énormément de courage, ce qui était assez inhabituel à cette période pour un avocat. Et il m'a brillamment défendu, il m'a montré, il m'a conseillé comment me défendre, et surtout il me soutenait psychologiquement parce qu'il venait me voir assez souvent à la prison de Rousinière. Donc finalement j'étais acquitté, c'est le cas unique dans les annales de la justice socialiste. Mais bien sûr quand je suis retourné à la police demander le passeport qui m'a été confisqué en disant écoutez, je suis libre, je suis acquitté, donc je voudrais retourner en France. En fait, le film n'était pas fini, le film sur Chima à l'époque n'était pas encore terminé, c'était ça. M'a dit, mais attendez, vous foutez de notre gueule.
Et du coup, sans passeport, vous avez fait comment? Vous avez fui à travers champs ou...
À travers la Yougoslavie, avec des papiers légèrement modifiés et dans des circonstances un peu sportives et un peu romanesques.
Après cette immigration, donc, vous allez en France, qui est quand même votre terre de prédilection, puisque vous parliez déjà un peu français et que vous aviez de la famille. Comment sont ces débuts? Est-ce que ce sont des débuts galères, je suppose, un peu?
Bien sûr, c'est des débuts très galères, mais à commencer par le fait que j'étais immédiatement arrêté par la police secrète française. Elle trouvait mon histoire absolument incroyable. J'étais interrogé 4 ou 5 jours à la DST. La police redoutée française, où j'ai dû détailler absolument tout, comment les choses se sont passées. Et effectivement, j'ai fini par démontrer ma bonne foi et démontrer que je n'étais pas un espion infiltré en France.
Et professionnellement, alors, comment est-ce que vous avez réussi à commencer un peu une carrière en France? Est-ce que c'est aussi le documentaire sur Chima qui vous a un peu aidé?
Le documentaire de Chima m'a un peu aidé parce que j'ai eu quand même quelques contacts à la télévision. Ça n'était pas très facile, essentiellement pour des raisons politiques, parce que alors que lors de mon premier séjour, j'étais accueilli assez chaleureusement un peu partout, parce que j'étais un étudiant qui venait d'un pays socialiste pour lequel beaucoup d'intellectuels et d'artistes français avaient de la sympathie, parce que tout le monde à cette époque qui gravitait un peu dans les milieux artistiques, et même à la télévision, était de gauche, pour ne pas dire sympathisant communiste. Ça a radicalement changé quand je suis retourné en France sous l'étiquette d'un émigré, beaucoup de personnes qui avant m'aidaient me tournaient le dos parce qu'ils me considéraient comme
un traître
du progrès et des lendemains qui chantent. Voilà, il y avait quand même beaucoup de compagnons de route du Parti communiste dans ces années-là à la télévision. Mais il n'y avait pas que ça, heureusement, et j'ai effectivement trouvé quelques personnes qui m'ont aidé. J'ai dû reprendre tout à zéro, j'ai dû commencer à travailler comme assistant, mais heureusement, enfin, on s'est aperçu assez rapidement et j'ai pu prouver assez rapidement un certain savoir-faire qui m'a permis relativement rapidement d'accéder à la réalisation. Je commençais à faire des petits reportages pour des magazines et puis des reportages un peu plus importants. Bon, bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était de faire des documentaires plus longs, plus ambitieux.
Et puis sur les sujets qui vous intéressaient, je
suppose. Sur les sujets qui m'intéressaient. Mais curieusement, je n'étais à l'époque pas du tout intéressé par l'histoire de la Tchécoslovaquie parce que je l'avoue, efforcé de l'oublier et j'ai tourné la page. Franchement, je pensais pas remettre un jour les pieds dans mon pays natal. Et donc, je voulais profiter de cette liberté retrouvée et définitivement acquise. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis mis à faire du bateau, de la plongée sous-marine et j'étais passionné par la plongée sous-marine et j'ai eu mes premiers succès comme documentariste avec des films sous-marins.
Alors justement, c'était un sujet que je voulais aborder. C'est une curiosité. Alors, vous vouliez oublier la Tchécoslovaquie, ouais, etc. Ouais. Mais moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez les Tchèques. Mmh. C'est leur rapport à la mer. Les Tchèques n'ont pas la mer, mais vous parlez à n'importe quel Tchèque, une des premières choses qu'il vous dira, c'est déjà, nous sommes un pays enclavé qui n'avons pas la mer, mais nous l'avons eu autrefois au Moyen-Âge. Et il y a cette espèce de manque de la mer et d'amour de la mer qu'ont les Tchèques et que je retrouve justement enfin chez vous quand j'ai découvert que vous aviez fait tous ces reportages sur la mer, sur la plongée, sur des recherches archéologiques sous l'eau également.
Exactement, mais c'est un fantasme, hein. C'est un fantasme parce que vous pouvez pas imaginer quel sentiment de plénitude et de bonheur j'ai éprouvé. Alors figurez-vous que jeune garçon, j'allais peut-être même ici, dans des cinémas de Prague, et j'ai découvert les premiers films de Cousteau. Et j'étais complètement, je sais pas si les gens peuvent imaginer maintenant, aujourd'hui, ce que c'est à 15 ans, par exemple, n'avoir jamais vu la mer. Je n'ai jamais vu la mer. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je l'ai vu en photo, je l'ai vu dans les films, mais physiquement, je ne savais pas à ce que ça ressemblait. Donc, c'était effectivement un fantasme. Donc, j'étais complètement subjugué par des films de Cousteau. Des années plus tard, quand j'ai commencé à faire des films sous-marins, TF1, à l'époque, m'a demandé de faire un portrait du commandant Cousteau. Et je me suis retrouvé une semaine avec lui sur la Calypso. Et la première nuit passée en mer, je suis allé, je ne sais pas si vous voyez, mais la Calypso avait une espèce de faux nez, fausse proue ajoutée à l'avant qui permettait d'accéder dans une espèce de bulle qui était sous l'eau avec des hublots où on pouvait observer à quelques mètres de profondeur ce qui se passait dans la mer. Et j'étais tout seul, une magnifique nuit étoilée, j'ai descendu dans cette sphère sous-marine et je me disais, attends, c'est pas possible, tu rêves, t'es un petit Pragois qui a découvert la mer quand il avait 22 ans et là t'es au milieu de la mer et t'es avec Cousteau voilà, c'est du rêve, voilà, c'était effectivement très fort.
C'est la fin de la première partie de cet entretien. Retrouvez Karel Prokop dès lundi dans l'émission spéciale du 6 juillet à l'occasion du jour férié célébré en République tchèque qui commémore le martyr du réformateur Jan Hus. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.